Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau rendez-vous du Cercle Turgot avec notre invité Pierre Sabatier, président du cabinet de recherche économique PrimeView, auteur, chroniqueur et administrateur, bien entendu, du Cercle Turgot. Pierre Sabatier, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir nous donner quelques éclairages sur une actualité qui reste préoccupante au plan économique, financier et aussi social. Alors, les économistes, bien sûr, s'évertuent à saisir tout à la fois les causes, les effets et les conséquences de la crise financière. Et les superviseurs s'efforcent de leur côté de mettre en place de nouvelles réglementations dont la plupart n'ont pas encore produit tous leurs effets. Et donc, on imagine déjà d'autres mesures. Le système bancaire et financier reste très fragile et le débat public est aujourd'hui fortement monopolisé par les violentes critiques et des appels aux sanctions à l'encontre des banques. Sur bien des aspects, les dirigeants des États européens paraissent vouloir oublier leurs propres responsabilités dans la crise de solvabilité des États, une crise qui, bien entendu, frappe non seulement les États européens, mais les pays avancés, les pays occidentaux et notamment l'Amérique, et oublie ce faisant que ce secteur, le secteur bancaire, reste à la fois un de nos champions pour ce qui est de la France, un champion international en termes notamment, c'est une industrie qui est extrêmement représentative de nos performances, de notre compétitivité, et que la banque reste un levier de croissance et d'emploi qui devrait être, sur bien d'autres aspects, protégé. Le secteur bancaire donc reste, pour les pays avancés, une des clés de leur souveraineté. Et il ne faudrait pas qu'au sorti de cette crise, on l'oublie un peu trop rapidement. Alors, c'est dans ce contexte notamment que le Cercle Turgot a fait paraître chez Erol, il y a quelque temps, un ouvrage collectif « Rigueur et relance ». Ce dilemme de Buridan reste encore dans l'actualité d'aujourd'hui. Et donc, juste quelques chiffres, 91 milliards de déficit en 2011, un peu moins que l'année dernière, moins 4 milliards. C'est bien, mais on sait que c'est une conséquence d'éléments assez conjoncturel et exceptionnel. Et puis, bien entendu, se profile pour le printemps une récession. En tout cas, c'est ce que l'on craint, ce que l'on redoute. Alors, dans ce contexte, Pierre Sabatier, qui n'est pas très engageant, quels sont les points qui vous paraissent devoir marquer l'année 2012 sur la planète finance et dans le monde en général ?
Alors, effectivement, la conjoncture est compliquée. Très clairement. Alors pour rebondir immédiatement et parler du système bancaire, évidemment, on ne peut pas faire sans. Aujourd'hui, il faut bien se rappeler que nos économies reposent sur un seul pilier, et je dis bien un seul, c'est la confiance des ménages, parce que l'ensemble de la richesse créée résulte des dépenses de ces ménages-là. Et pour que ces ménages dépensent, il faut que les entreprises les emploient, et il faut également qu'ils aient de l'argent pour effectuer des crédits et acheter leur avenir, leur propre avenir. Donc en conséquence, effectivement, on ne peut pas rendre exempt nos banques, car c'est le levier essentiel et indispensable au bon fonctionnement de nos ménages et des dépenses des ménages et de la consommation qui représente entre 60 et 70% du PIB de l'ensemble de nos pays occidentaux.
Alors c'est tout à fait le bon sens, mais ça va encore mieux en le disant.
Effectivement.
Et en le rappelant comme vous le faites.
Voilà. Ceci étant dit, effectivement, la conjoncture est très compliquée. Pour autant, là aussi, il ne faut pas nier une certaine forme de responsabilité de la part des banques, mais elle n'est pas si importante que cela dans la crise qu'on vit depuis l'été dernier. Je dirais que leur inconséquence, voilà, leur légèreté, s'est surtout exprimée en 2007-2008, c'est moins le cas en fait sur la dernière crise. Alors, 2012, après une année 2011 extrêmement marquée, éprouvante pour les investisseurs, pour les gens qui évoluent quand même pas mal dans la crainte. On a vu se démultiplier les prêcheurs de l'apocalypse tout au long de l'année. On sait là encore, lorsque le pilier c'est la confiance, c'est pas extrêmement favorable
mais
à tout ça.
Mais vous nous dites, à la fin du monde, c'est pas pour 2012.
Non, c'est pas pour 2012. On verra en 2013, voilà, on se reparlera en début d'année prochaine. Alors, les trois grands points, je crois, qui vont être déterminants pour cette année-là, qui sera une année compliquée pour autant. D'abord, bien entendu, la zone euro. Quid de la zone euro ? Quelle perspective ? Dislocation ou non de l'euro ? Sortie par le haut ? Est-ce qu'on va trouver une recette miracle qui va résoudre les problèmes de liquidité et de solvabilité de nos États ? Le scénario central est le plus probable, c'est qu'on va continuer à évoluer sans doute dans un domaine d'incertitude relativement élevé. Nos gouvernements vont travailler, mais il est fort probable qu'au cours du premier semestre, les tensions continuent de monter. jusqu'à un point de non-retour où il faudra trouver une solution, par le haut ou par le bas. Mais il est très probable qu'au cours du premier semestre, on connaisse de nombreuses difficultés pour une raison simple. Le besoin de financement de nos États va être extrêmement important au cours du premier trimestre. Sur le seul premier trimestre, les pays de la zone euro doivent lever 400 milliards d'euros de dettes. Aujourd'hui, la question, c'est qui va les acheter ? Alors, on sait que la Banque Centrale Européenne le fera dans une certaine mesure, mais elle a très clairement dit qu'elle ne se considérait pas comme un acheteur pérenne de dette publique et donc elle ne se mettra pas en face de l'ensemble des besoins de financement de nos États. Donc la question, c'est qui va acheter ? Les banques, aujourd'hui, on incite très clairement les banques à ne pas acheter de la dette publique de nos États parce qu'on leur dit non, ce n'est plus un actif, arrêtez de prendre du risque. Or, les obligations d'État sont considérées comme actifs risqués.
Le message est d'ailleurs assez ambivalent puisqu'en fait, on leur dit presque les deux choses. On leur dit à la fois... Attention, c'est un actif risqué. Et par ailleurs, bah, jouez votre rôle. Alors donc, mais souvent, les banquiers n'ont plus envie de se faire reprendre une deuxième fois.
Exactement. Dans ce message un petit peu schizophrénique, clairement, les banques ont opté pour le choix de la vente de ces obligations d'État. BNP, Société Générale, Crédit Agricole, toutes sont en train de solder leur portefeuille d'obligations d'État au début périphérique, mais qu'ils ne le sont plus, puisque l'Italie est un pays du cœur de la zone euro. Donc, quid, qui va acheter donc ces obligations d'État ? Les pays émergents ont très clairement dit qu'ils ne le feraient pas. Il ne le ferait pas. Le FMI, donc il est peu conseillé de faire appel au FMI pour faire face aux problématiques de financement de la zone euro. Peut-être les investisseurs institutionnels. Quoique, aujourd'hui, qui va aller réellement acheter une obligation d'État lorsqu'on sait que la Banque centrale ne joue pas derrière son rôle à proprement parler et c'est un actif risqué. Donc je ne crois pas. Donc le premier trimestre risque d'être compliqué pour faire face à ces besoins de financement. Donc on verra. Donc la théorie la plus probable, c'est quand même une montée des tensions qui vont tout au long du premier semestre, jusqu'à ce qui devrait culminer peut-être au mois d'avril, et des ébauches de solutions réelles qui devront être trouvés d'ici le premier semestre.
Oui, juste devant le gouffre, il faudra sortir d'une façon ou d'une autre.
Absolument,
il faudra... Ou reculer ou sauter dans le gouffre. Donc, mais enfin, vous n'êtes pas un partisan de l'apocalypse, vous êtes un homme de raison et vous pensez plutôt que la solution, elle se trouvera.
Il est probable que la solution se trouve. Après, voilà,
le schéma
n'est jamais le plus certain. Aujourd'hui, on va dire que notre scénario central, c'est qu'on trouve une solution à hauteur de 50%. Voilà, la probabilité, elle est quand même forte. D'accord. Pour qu'on trouve une solution. Il le faudra et devant le gouffre, a priori, la solidarité devrait prévaloir. Puisqu'aujourd'hui, si on imaginait une explosion de l'euro, ce qui n'est pas impossible, ça peut être un choix, d'ailleurs un choix populaire. Voilà, moi, je suis économiste, donc je m'exprime sur des thématiques économiques, pas sur des thématiques de choix de société. Mais aujourd'hui, simplement, je me mets à la place des pays du nord de l'Europe, qui sont des pays excédentaires. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les pays excédentaires ? Ils ont prêté aux pays déficitaires. Donc, ils n'ont aucun intérêt, si demain vous avez explosion de l'euro, l'ensemble des actifs qu'ils ont achetés par le passé est immédiatement dévalué. Donc, perd beaucoup de sa valeur. Donc, eux-mêmes n'auraient pas intérêt à le faire. Après, bon, on est dans le domaine de l'imprévisible et ça, je ne peux pas m'exprimer sur cette question.
Et peut-être aussi parfois de l'irrationnel. L'irrationnel étant la mesure même de la défiance, telle qu'on en voit sur le marché des bons d'État allemands, puisque aujourd'hui, les investisseurs, si on peut dire, puisqu'en fait, s'ils font quand même des choix assez curieux, ont des rendements négatifs.
Absolument.
On a vu ça un petit peu en Suisse à une époque, mais c'est toujours des moments quand même de très, très grandes crises.
De très grandes crises, effectivement. Bon, après, on l'a déjà évoqué ensemble, clairement, l'Europe prend le chemin du Japon, avec des taux d'intérêt qui seront définitivement extrêmement bas parce que les taux de croissance seront extrêmement bas pour des raisons à la fois structurelles, enfin conjoncturelles liées à un surendettement initial, mais surtout aussi démographique dans un pays qui vieillit. Et demain, il est probable que nos taux d'intérêt vont rester extrêmement bas. Effectivement, que des investisseurs acceptent implicitement de perdre de l'argent en prêtant de l'argent en Allemagne, ça traduit effectivement un degré de stress inouï sur les marchés. Après, je ne crois pas que les taux d'intérêt remontent énormément dans un avenir proche ou lointain.
Donc, votre premier point... Interrogation sur l'Europe et une période très sensible sur le premier trimestre.
Absolument.
Alors, autre point.
Alors, je dirais le deuxième point, il faudra étudier et regarder la pérennité d'une certaine théorie qu'on appelle la théorie du découplage entre les États-Unis et l'Europe. De manière assez légitime, au cours du rebond qu'on a connu de 2009 à 2011, les États-Unis et l'Europe ont évolué à peu près en termes économiques de manière similaire. Ce n'est plus le cas depuis la fin d'année 2011. Les Américains, de manière extrêmement surprenante, se remettent à consommer, en dépit de taux d'épargne qui sont quasi nuls ou extrêmement faibles, ce qui donne un petit peu, je dirais, de rebooste un petit peu la croissance économique aux États-Unis et, bien entendu, leur permettent, eux, d'éviter une récession qui est aujourd'hui quasi certaine en zone euro. Donc, on serait sur des taux de croissance aux États-Unis qui tourneraient autour de 2,5% l'année prochaine, ce qui est extrêmement élevé au regard du contexte mondial. Alors qu'en Europe, on tournerait au mieux vers une stabilisation autour de 0%. Alors, ce découplage, bien entendu, il va plutôt jouer favorablement pour les actifs en dollars, les actifs américains. Et ça sera donc déterminant quant aussi à la profitabilité de nos entreprises. Il est probable que les entreprises américaines affichent des taux de profit qui seront sans doute encore en croissance ou au moins se stabiliseront sur des niveaux élevés, alors qu'en Europe, on s'attend aujourd'hui à une chute des bénéfices des entreprises européennes entre 10 et 20% au regard de l'ampleur du ralentissement.
Mais cette aubaine, cette croissance, est-ce qu'elle est susceptible d'infléchir dans le bon sens la dette américaine et sa situation publique, des finances publiques ou pas?
Je ne crois pas parce que le chemin, et ça il faut toujours le rappeler, le chemin à parcourir pour que les Américains sortent d'une situation extrêmement fragile dans laquelle ils sont rentrés depuis le début des années 2000 et sera extrêmement long et périlleux. Le découplage aujourd'hui n'est la résultante que d'une seule chose. L'Europe a décidé de prendre la problématique de ses déficits publics et de sa dette publique à bras-le-corps dès maintenant. Alors, bonne ou mauvaise raison, on pourrait en discuter, c'est un choix politique. Ouais. Voilà, le Japon avait fait de même au milieu des années 90, sans doute à mauvais escient. Mais bon, l'Europe a décidé de le faire. Donc, quand vous réglez votre problème de déficit public, ben, vous dépensez moins, vous tendez les pressions fiscales. Et ce qui fait qu'en général, c'est jamais bon pour les dépenses des ménages et pour les chiffres d'affaires des entreprises. Donc, de fait, pour régler notre problème de déficit public, on choisit que notre économie rentre dans une phase de récession légère. Les États-Unis font tout le contraire. Ils continuent, vous avez vu, au troisième trimestre et quatrième trimestre, donc les soutiens budgétaires à l'emploi ont encore été accentués. Vous avez une dette publique qui atteint désormais 100% du PIB, un déficit public qui tourne autour de 8 à 9% du PIB, c'est-à-dire pire que l'Espagne. L'Espagne, c'est une dette publique de 65% du PIB, un déficit public autour de 8% du PIB. Vous voyez, donc c'est des fondamentaux structurellement supérieurs à ceux des États-Unis. Voilà, le simple phénomène de découplage entre l'Europe et les États-Unis, c'est que les États-Unis n'ont pas décidé de s'attaquer à la problématique de leur déficit public. Ça devrait venir avec les élections de fin d'année. Il est probable qu'en 2013, on n'ait plus cette théorie du découplage. Voilà, et que les États-Unis rentrent dans une phase beaucoup plus difficile de, je dirais, normalisation de sa politique budgétaire.
Mais est-ce que dans un premier temps, ce découplage en faveur des États-Unis peut être favorable à l'Europe et en tout cas de façon encore plus égoïste à la France,
à
la marge peut-être.
Oui, je dirais par deux leviers. D'abord, le levier de la monnaie. Vous avez vu que l'euro aujourd'hui a quand même pas mal dégringolé. On est en dessous de 1,30.
Tout à fait.
Alors, à court terme, c'est jamais très bon parce que ça vous fait payer un petit peu l'énergie plus cher et tous les produits qu'on importe un peu plus cher. Mais à long terme, c'est bon pour nos sociétés exportatrices.
C'est ça.
On gagne en compétitivité sans rien faire vis-à-vis aux producteurs.
Oui, sans autre
d'ailleurs.
Effort que ça.
Donc, dans un premier temps, c'est extrêmement bénéfique. Et deux, il ne faut pas se voiler la face. En Europe, demain, l'expansion des chiffres d'affaires et des dépenses des ménages va être extrêmement ténue, voire nulle ou négative. Donc, le fait est que les États-Unis restent sur un chemin, je dirais plutôt de haussier, ben, va permettre d'atténuer la pression baissière en provenance de notre propre territoire. Donc, ça soutiendra, bien entendu, nos entreprises et nos entreprises qui seront capables d'aller chercher.
Ouais. Et notamment les grandes entreprises internationales, où on a aussi quelques...
Absolument, qui sont déjà champions. Bien, j'irais, implantées outre-Atlantique.
Ouais, mais ce n'est pas de nature à régler les problèmes, on va dire, structurels qui se posent.
Voilà, exactement,
le
ça atténuera, effectivement, voilà. Ça atténuera, en fait, j'irais, la douloureuse expérience d'une nouvelle récession après celle de 2008-2009.
Incertitude, donc, sur l'Europe sur le premier trimestre et inquiétude. Problème de découplage entre les États-Unis et l'Europe, au moins sur l'année 2012. Et l'autre question, c'est les émergents, j'imagine.
Effectivement. Aujourd'hui, les pays de l'OCDE ne représentent à peine plus de la moitié de la richesse créée en une seule année. Donc les émergents, et notamment la Chine, pèsent énormément et sont les véritables locomotives de la croissance mondiale depuis une dizaine d'années. Alors ça a encore été le cas l'année dernière et l'année qui a précédé. Donc la vraie question, si demain on veut savoir comment évoluer le contexte économique mondial, puisqu'aujourd'hui on est dans des économies qui sont très imbriquées les unes dans les autres, il faut s'interroger sur la pérennité de la croissance chez les émergents. Or, je dirais, parmi les trois points que j'ai mentionnés jusque-là, celui qui est le moins admis, c'est les risques qui existent sur la croissance des émergents et notamment plus particulièrement la croissance chinoise. Voilà. Et donc s'il fallait définir un signe noir, vous savez qu'en finance on appelle un signe noir quelque chose qui est très très improbable et auquel on ne s'attendait absolument pas. Ça arrive une fois tous les demi-siècles. Aujourd'hui, s'il fallait attendre un signe noir en 2012, il viendrait sans doute moins de la zone euro, puisque l'ensemble des problèmes ont déjà été mis sur la table. On a du mal à trouver des solutions, mais les problèmes sont là. Donc tout le monde en a conscience et les gens sont ajustés en fonction. Il viendrait plus, je dirais, d'un accident économique en Chine au regard de son incapacité à continuer à progresser au rythme de 10% par an, ce qu'elle fait depuis 30 ans. Pourquoi nous sommes inquiets à ce sujet-là? Pour une raison simple, qu'on développera d'ailleurs dans un livre qui sera publié au cours du premier semestre chez les éditions Erol. et qui traitera spécifiquement du sujet. Notre inquiétude, il naît des déséquilibres qui sont en train d'exploser partout sur le territoire chinois et notamment dans le moteur de la croissance. La moitié de la croissance chinoise aujourd'hui, ce sont des investissements dans des infrastructures. On construit énormément d'autoroutes, énormément d'aéroports, énormément de lignes de TGV, on construit énormément de TGV. Or, ces infrastructures-là s'avèrent effectivement bénéfiques pour la croissance à court terme parce que quand vous construisez toutes ces infrastructures, vous employez des gens. Et donc, ces gens-là sont à mesure de dépenser ce qu'ils ont gagné. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces infrastructures ne sont absolument pas rentables et vides. Donc, on peut se poser la question de la rentabilité de sa structure et donc de la solvabilité des banques qui ont prêté pour produire ces structures-là.
Donc, le prochain problème bancaire, donc, vous le voyez du côté de la Chine.
Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important en Chine que dans nos pays occidentaux. Bien entendu, nos banques sont dans une situation compliquée, mais là-bas, je dirais, les banques chinoises sont aujourd'hui dans la situation des banques américaines en 2006-2007.
Oui, ou des banques japonaises aussi.
Ou des banques japonaises à la fin des années 80. Ouais, exactement. On est vraiment dans l'aléa de moralité où les banques ont... J'irai acheter de la croissance à crédit, puisqu'ils ont prêté beaucoup, et bien sûr, ça a généré de la croissance, mais elles payeront le risque plus tard, à savoir avec l'explosion, en fait, sans doute, des défauts liés au financement de projets qui n'étaient pas porteurs d'avenir et qui n'étaient pas assez rentables pour générer des revenus et, in fine, rembourser les crédits qui ont été réalisés. Il faut bien avoir en tête que le niveau d'endettement en Chine aujourd'hui est similaire à celui qu'on peut constater en Europe ou aux États-Unis. Or, vous savez que l'origine de la crise, c'est d'abord un problème de surendettement total. Voilà. Donc, ce sujet-là est à prendre à bras-le-corps. Après, bien entendu, il n'est pas forcément évident que ça se produise en 2012, puisqu'on est sur un des pouvoirs qui sont plus autoritaires, relativement opaques. Donc, ils ont les moyens, entre guillemets, de faire durer un petit peu les choses. Mais très clairement, les risques sont aujourd'hui de plus en plus nombreux et les nuages s'accumulent sur, je dirais, à l'est du monde et du côté, en fait, chinois.
Et donc, risques économiques, mais risques aussi dans la foulée, risques sociaux. Car, en fait, chacun a compris que ce capitalisme totalitaire doit sa survie à des résultats économiques qui laissent penser aux Chinois que le bonheur est pour demain.
Absolument. Et la véritable problématique, elle est là. Aujourd'hui, les gouvernants ont toujours eu conscience et à chaque fois qu'on a eu un accident économique, c'est-à-dire que la croissance était un tout petit peu moins au rendez-vous, ils ont appuyé sur l'accélérateur pour réinjecter du carburant car c'est l'ultime nécessité pour eux de préserver, je dirais, la légitimité du Parti communiste, du parti unique qui est le Parti communiste là-bas.
Alors, trois points, Pierre Sabatier, qui sont autant des points d'interrogation et d'inquiétude. Est-ce que, en ce début d'année, au moment des vœux, vous avez au moins un point sur lequel... Alors, il y a peut-être effectivement cette croissance ou cette consommation américaine qui est un petit peu inespérée par rapport à ce qu'on espérait. Sinon, est-ce qu'il y a un point ou quelques domaines où vous pensez qu'il y a peut-être la démographie
Alors, non, je dirais que tout ça, ce sont des points d'inquiétude. Mais s'il y a un souhait à faire pour 2012, c'est voir clair. C'est-à-dire qu'entre guillemets, ne pas se bercer d'illusions, car étant un profond optimiste de nature, je pense que pour construire, je dirais, un modèle de société plus pérenne, car on pourra l'évoquer dans le futur, on a véritablement d'autres défis encore à relever, notamment le défi démographique qui sera compliqué à gérer, mais qu'il est possible de relever. Donc l'important pour nous en économie, pour construire des modèles qui soient crédibles et pérennes, c'est voir clair. Donc faire des diagnostics les plus lucides possibles, les plus objectifs possibles, en essayant justement d'éviter toute subjectivité liée à des problématiques idéologiques. Voilà. Sortons des problématiques idéologiques et voyons clair, faisons des diagnostics lucides pour construire des modèles de société qui soient pérennes.
Alors, on va vous soumettre à la torture du pronostic. Le CAC 40, fin 2012, vous le voyez à 1000 ou à 5000 ? Donc, je vous donne une fourchette assez large.
Merci pour la fourchette. On réalise absolument jamais ce genre d'exercice, mais pour Canal Academy et pour le Cercle Turbo, je vais me risquer.
Plutôt à la hausse, quand même.
Aujourd'hui, on serait plutôt sur une phase de stabilisation pour une raison simple. On a rarement vu des marchés actions monter en période où on rentre en récession. D'accord. Après, il y a déjà beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont intégrées dans les cours. Vous savez que les investisseurs et les marchés actions sont des indicateurs avancés, anticipent énormément la récession. C'est ce qu'ils ont fait. Après, ils anticipent aussi le retour de la croissance. Simplement, aujourd'hui, vous avez compris qu'on n'est pas en mesure de dater le retour à la croissance dans nos vieux pays. En conséquence, il est difficile d'imaginer d'un marché actions qui soit fondamentalement haussier. Après, beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà dans les cours. Donc, je dirais une stabilisation des marchés boursiers est probable sur l'année.
Bon, écoutez, on pariait sur une stabilisation. Pierre Sabatier, c'était votre analyse économique pour le Cercle Turgot, avec une parution qui est prévue donc dans le courant du premier semestre, j'imagine, et que vous viendrez nous présenter donc sur le thème, précisément, c'est le...
Le crépuscule chinois, c'est
ça. Le crépuscule chinois, voilà. C'est un très très beau titre. Bon, écoutez, merci encore Et bravo pour cette analyse et merci pour vos pronostics.
À très bientôt.